Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre, émission préparée par Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Fanny Richer, réalisée par Jean-Christophe Francis. À la prise de son, Jean-Frédéric. Vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Je fais un petit peu à l'envers aujourd'hui. En ce surlendemain de victoire de Syriza, un détour s'impose par le dictionnaire pour une petite vérification. Pragmatisme. Oui, c'est confirmé, le mot vient bien du grec pragmatikos, qui concerne l'action, nous dit le Larousse. Le pragmatisme est donc grec, et Alexis Tsipras en est son plus digne représentant. Car pour s'assurer une majorité absolue au Parlement d'Athènes, le nouveau Premier ministre, leader de la dite gauche radicale, n'a pas hésité à former une coalition avec des souverainistes de droite, les Grecs indépendants, un peu comme si Jean-Luc Mélenchon faisait cause commune avec Nicolas Dupont-Aignan. Alors voilà au moins le nouveau gouvernement grec assuré pour un temps d'un minimum de stabilité et donc de visibilité pour mener son programme qui consiste essentiellement à faire sortir le pays de l'austérité. Hausse du salaire minimum, suppression de la taxe foncière pour les petits propriétaires, aide alimentaire pour les familles pauvres et bien sûr renégociation de la dette. C'est là le principal défi qui attend la nouvelle équipe au pouvoir, laquelle sera vite jugée sur sa capacité à infléchir la politique européenne. À Bruxelles, les ministres des Finances se disent prêts à discuter, mais pas à tout accepter. Idem du côté de la Banque Centrale Européenne. Alexis Tsipras saura-t-il se montrer aussi habile sur cette scène européenne que sur le terrain de la politique intérieure grecque? Sur qui Syriza peut compter en Europe? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, je reçois ce soir Yves Bertoncini. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de l'Institut Jacques Delors, qui est un think tank européen créé en 1996 par Jacques Delors, justement. Un think tank qui tente de contribuer au débat relatif à l'Union européenne. Votre dernier billet sur le site, qu'on peut aussi retrouver en tapant sur moteur de recherche Notre Europe, hein, Notre Europe, Institut Jacques Delors. Tsipras n'est pas Midas, autrement dit, le nouveau Premier ministre grec ne va pas changer la dette de son pays en or. On va avoir l'occasion de discuter évidemment de ces questions-là, avec également Clémentine Forissier. Bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, spécialiste des questions européennes. Vous êtes la rédactrice en chef de Contexte.com, qui se présente comme le journal des politiques publiques françaises et européennes. C'est un journal en ligne qui s'adresse avant tout aux décideurs.
On peut dire ça, c'est un journal en ligne et qui traite d'un certain nombre de sujets avec toujours comme idée de mettre en lien ce qui se passe en Europe et ce qui se passe en France.
Troisième invité, Gaël Brustier, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, collaborateur scientifique du CEVIPOL de l'Université Libre de Bruxelles, centre d'études de la vie politique. Le mai 68 conservateur, que restera-t-il de la manif pour tous aux éditions du CERF? C'est oui. Le titre du dernier ouvrage que vous avez publié. Alors sur qui Syriza va pouvoir compter en Europe? Peut-être faut-il d'abord se poser la question de savoir si l'opinion publique européenne, si tant est qu'elle existe vraiment, va pouvoir servir d'appui au nouveau gouvernement grec. Ce qui était en tout cas assez frappant, Gaël Brustier, c'était de constater à quel point cette élection a été suivie. On avait presque l'impression par moment que pour certains électeurs ou certains citoyens non grecs, il y avait une forme de vote par procuration à travers ces législatives.
En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'en France, la campagne a été effectivement très suivie, que la soirée électorale ne l'a pas moins été, mais qu'il se passe en plus quelque chose dans l'Europe du Sud. C'est-à-dire qu'on a vu les deux leaders des partis de la gauche radicale, à la fois espagnol et grec, faire campagne en commun, préfacer l'ouvrage l'un de l'autre. Ils sont de la même génération. Ce sont deux intellectuels. Ils ont les mêmes références intellectuelles et stratégiques. Ils ont participé il y a une dizaine d'années aux forums sociaux internationaux et ils sont en train de révolutionner la stratégie de la gauche radicale ou d'importer dans la gauche radicale européenne un certain nombre de débats stratégiques sur la manière d'assurer une large majorité pour exercer le pouvoir et de l'élargir. C'est-à-dire que dans la préface au livre d'Iglesias, qui est le leader de Podemos, Tsipras disait en septembre dernier, nous appliquons un programme qui doit rassembler 99% des citoyens, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas dans la petite oligarchie liée aux banques, liée à ce qu'ils appellent le parti de Wall Street.
On a souvent reproché à l'Europe de manquer d'incarnation. Clémentine Forissier, est-ce qu'on pourrait dire qu'à travers Iglesias en Espagne et Tsipras en Grèce, l'Europe, en tout cas une autre Europe est en train d'être véritablement incarnée aux yeux des citoyens européens qui se sont quand même très fortement manifestés lors des dernières élections de mai dernier, soit en s'abstenant, soit en votant pour des partis qu'on qualifie d'eurosceptiques.
Ce qui est sûr, c'est que dans certains pays du Sud, en Grèce, en Espagne, en Italie dans une moindre mesure, avec le mouvement 5 étoiles, mais qui, à mon avis, n'en est pas du tout au même stade qu'on ne peut pas comparer vraiment avec Syriza, il y a une incarnation d'une autre Europe. En revanche, aller parler de cette incarnation d'une autre Europe aux Allemands, aux Néerlandais, aux Finlandais, et ils ne sont pas les seuls, je ne suis pas du tout certaine qu'ils s'y retrouvent dans cette autre Europe. Et les opinions publiques de ces pays-là ne sont pas du tout favorables à une annulation de la dette grecque. Et même une renégociation, c'est compliqué. Ils n'ont pas du tout la même perception. Donc moi, ce que je pense, c'est que finalement, l'arrivée de Syriza, c'est le clivage de l'Europe du Nord contre l'Europe du Sud, avec la France finalement un peu au milieu, qui s'incarne de façon encore plus forte qu'avant.
Ce serait un peu hâtif, sans doute, Yves Bertoncini, de parler d'une opinion publique européenne qui se serait rangée, qui aurait été extrêmement intéressée par ce qui se passait en Grèce.
Non, il y a des opinions publiques nationales qui s'européanisent, effectivement. Et la crise de la zone euro nous a fait prendre conscience de notre interdépendance économique et politique, et même électorale. On a même suivi, avant la Grèce, des élections parfois régionales en Allemagne. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a un intérêt beaucoup plus fort qu'avant.
Qui s'européanise, ça veut dire que, par exemple, les législatives en Grèce peuvent être perçues, alors, par exemple en France, comme une affaire qui n'est pas exclusivement une affaire grecque, pas exclusivement une affaire européenne, mais aussi une affaire intérieure.
Alors pour deux raisons, hein, s'agissant des élections en Grèce. D'abord, il y a des raisons idéologiques avec, d'ailleurs, la fracture qu'a relevé Clémentine Forissier, parce que on a eu depuis 5 ans cette Europe FMI qui a été à l'œuvre en Grèce et dans 3 autres pays, hein, d'abord pas dans tous les pays s'agissant des programmes d'ajustement, mais qui a en réalité été à l'œuvre dans la plupart des pays, puisque l'Europe FMI, c'est de l'aide financière qui a été financée depuis l'Allemagne, depuis la Finlande aussi, depuis la France, depuis l'Espagne, hein, bon, et qui a été octroyée à ces pays. Donc il y a une fracture idéologique d'abord, premièrement, liée à ça. Pour certaines opinions publiques, c'est trop d'austérité. Effectivement, en Grèce, c'est trop d'austérité. Mais pour d'autres opinions publiques, c'est trop de solidarité. Ce qui a émergé en Allemagne, c'est un parti qui s'appelle Alternative für Deutschland, qui pense que c'est trop de solidarité, il ne fallait pas aider les Grecs. Et puis après, il y a autre chose qui est beaucoup plus prosaïque quand on regarde la Grèce, c'est que précisément, les contribuables des pays de la zone euro ont prêté de l'argent. Pas mal d'argent d'ailleurs, 240 milliards d'euros à la Grèce. Et donc, ils voudraient simplement savoir s'ils vont revoir à un moment ou à un autre et quand la couleur de cet argent.
Ça peut vouloir dire que l'enthousiasme manifesté dans un certain nombre de pays à l'égard de la victoire de Syriza pourrait très vite fléchir quand les contribuables vont se rendre compte que si Syriza veut mener à bout son programme, autrement dire obtenir une annulation partielle de sa dette, ça va se traduire par des augmentations d'impôts, par exemple, Clémentine Forissier.
Mais on voit bien, même dans le discours de la gauche en France, que dans le discours de François Hollande, là, c'est ces jours derniers, ce phénomène. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un soutien à Syriza et ça met de l'eau au moulin du chef de l'État qui a parlé de réorienter l'Europe depuis 2 ans, etc. De l'autre, il n'est pas question d'aller dire aux Français qu'ils vont devoir s'asseoir sur une partie de l'argent qu'ils ont prêté aux Grecs. Et je pense que personne n'est prêt à faire ça en France au premier chef.
Gaël Brostier, le citoyen risque de ne pas être du même avis que le contribuable.
Les premiers juges de l'échec ou de la réussite de Syriza seront les citoyens grecs. C'est-à-dire qu'ils se sont fixés un agenda politique qui consiste à récupérer, à reconquérir un certain nombre d'instruments de souveraineté et à soulager une société grecque qui souffre dans sa chair des conséquences de l'austérité. Parce que l'austérité grecque n'a strictement rien à voir avec l'austérité française, même si on a des taux de chômage, etc. Ils sont très importants. Chez eux, ça se pose tout simplement en termes de réussir à se chauffer, réussir à manger, réussir à se loger. Enfin, c'est vraiment extrêmement... Et ça concerne autant les ouvriers que les profs de fac. Donc c'est une société qui souffre vraiment. Donc c'est de ce point de vue-là, est-ce que Syriza va parvenir à élargir le front social qu'ils entendent créer? C'est tout l'objet de leur alliance avec les souverainistes des Grecs indépendants, et c'est une stratégie politique qui a pour objet de reconquérir les instruments de souveraineté. Est-ce qu'ils vont réussir à soulager la société grecque? Et au-delà, est-ce qu'ils vont parvenir à déverrouiller quelque chose, notamment dans les opinions publiques d'Europe du Sud, pour qu'il y ait un mouvement qui aille vers dans leur sens. C'est-à-dire, est-ce qu'en Espagne, à la fin de l'année, dans les mois à venir, Podemos va réaliser les scores qu'on lui prédit Les discours d'Iglesias sont tout à fait volontaristes. Il n'a pas l'intention de transiger avec le PSOE. Il entend faire 50%. Il se fixe des buts qui sont des buts au sens post-marxiste ou gramscien hégémonique. Qu'est-ce qui va se passer en Italie où on voit que Renzi est à la tête d'un parti qui est lui-même, qui est quand même encore quelques attaches du côté un peu plus radical que ce qu'est Renzi. Qui se passe passer en Italie déjà, qui se passe passer au Portugal, c'est-à-dire dans ce que les Allemands appelaient généreusement les PIGS autrefois, dans cette Europe du Sud. C'est là la clé, à mon sens, effectivement, parce qu'il y a une vraie disparité entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud.
Yves Bertoncini, est-ce qu'il peut y avoir une forme d'effet de souffle sur les prochains scrutins qui vont avoir lieu en Europe? On pense donc, comme le disait Gaël Brustier, il y a les législatives, c'est au mois de novembre en Espagne. Il y a en mai prochain les législatives au Royaume-Uni, avec des configurations évidemment différentes. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura une forme d'exemplarité de ce qui s'est passé en Grèce et que ça va se répercuter, alors notamment en faveur du mouvement Podemos en Espagne?
Ça, c'était le rêve de la gauche radicale. C'est toujours et c'est plus que jamais le rêve de la gauche radicale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils avaient fait d'Alexis Tsipras leur chef de file aux élections européennes de mai 2014. Donc il a ce potentiel emblématique et maintenant il est au pouvoir en plus. Donc c'est galvanisant. Mais vous avez cité les élections qui ont lieu cette année. Il y en a 9 des élections nationales importantes dans l'Union européenne. La Grèce, alors si on veut rapprocher la Grèce d'autres élections dans le sud, il y a effectivement en toute fin d'année l'Espagne et le Portugal. Moi, je préfère dire que c'est les pays de la périphérie, parce que l'Irlande aussi a connu une poussée de la gauche radicale.
C'est vrai.
Pourquoi ? Parce que l'Irlande a aussi connu une austérité drastique. Mais donc, 3 élections, Grèce, Espagne, Portugal. Il y en a 3 autres, vous en avez parlé, Royaume-Uni. Royaume-Uni, Finlande, Danemark, on n'attend pas dans ces pays une poussée de la gauche radicale. Bien au contraire, si je puis dire, ça serait peut-être plutôt la droite eurosceptique, voire europhobe. Et puis encore 3 dernières élections, c'est la Pologne, l'Estonie, la Croatie. Et ce sont des pays plutôt europhiles, globalement, et qui sont d'ailleurs, sauf pour l'Estonie, pas membres de la zone euro. Alors si on va au-delà de ces enjeux électoraux, mais qui donnent la température à chaque fois, ce qui est clair, c'est que sur ces 9 élections, nous n'aurons pas 9 victoires de la gauche radicale. Comme en Grèce, le seul pays où il peut y avoir une poussée, et pourquoi pas une première place de la gauche radicale, c'est l'Espagne, effectivement.
Parce qu'on est dans une configuration qui est proche, justement, de celle de la Grèce.
Alors voilà, parce qu'ensuite, si on va au niveau des opinions publiques, il faut aussi que, pour qu'on exporte ou qu'on importe des situations, les situations soient identiques dans leurs prémices. La Grèce, c'est quand même relativement exceptionnel. Premièrement, du point de vue politique, c'est l'Europe FMI, c'est-à-dire la mise sous tutelle. Ça n'est arrivé qu'à 4 pays, dont 2 d'ailleurs en sont sortis, hein, parce que l'Irlande et le Portugal en ont terminé avec les programmes. Il ne reste plus que la Grèce et Chypre. Ensuite, c'est une austérité absolument drastique. Vous avez parlé du salaire minimum qui va augmenter M. Tsipras. Oui, je pense qu'il peut le faire. Le salaire minimum a baissé de 22% en Grèce, les pensions de 30%. On a licencié des centaines de milliers de fonctionnaires. Gaël Brustier a parlé du manque d'accès aux soins et à l'eau. Ceci a eu lieu, ce genre de coupe drastique, dans certains pays. Le Portugal, il y a eu des baisses de salaire en Irlande. Ça n'a par exemple pas eu lieu du tout en France. Pas du tout en France. Et troisième élément, qui est plus partisan, c'est un élément lié au fait que les partis de la gauche radicale peuvent émerger et prendre le contrôle de la gauche quand le parti social-démocrate s'effondre. Ce qui a été le cas en Grèce, parce que le PASOK était lié au pouvoir, il était en bipartisme. Est-ce que le PSOE va s'effondrer? Est-ce qu'en France, le Parti Socialiste est en train de s'effondrer? Au Portugal, dernier exemple, le Parti Social-Démocrate va-t-il s'effondrer? Enfin, le Parti Socialiste, pas du tout. Et donc, il faut que les conditions soient réunies pour que le transfert se fasse.
Clémentine Forissier.
Moi, je pense qu'on peut... Enfin, c'est très difficile de comparer la Grèce et l'Espagne. Alors, leurs leaders sont très proches, ont beaucoup communiqué ensemble, etc.
Mais disons que c'est peut-être les plus comparables.
C'est les plus comparables, mais pourquoi la Grèce est dans la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui et pourquoi est-ce que la Grèce a été touchée par la crise comme elle l'a été touchée? C'est parce qu'elle a un État qui était totalement dysfonctionnel, corrompu, avec un nombre de fonctionnaires pléthoriques par rapport à ce qui était nécessaire. Enfin, je veux dire, la Grèce en 2008, c'est pas l'Espagne en 2008. Les raisons de la crise en Grèce sont pas uniquement liées à la crise financière. Disons que le pays a pris de plein fouet la dérive des finances, de la finance mondiale, mais parce que son État, enfin la Grèce concrètement, n'aurait jamais dû rentrer dans la zone euro s'il n'y avait pas eu la complicité de la France et de l'Allemagne qui n'ont pas trop voulu aller regarder comment les comptes grecs se portaient.
Donc vous voulez dire qu'il y avait un besoin de renouvellement beaucoup plus important en Grèce qui ne peut
exister
en Espagne.
Bien sûr, et il y a même eu ce qu'on appelle la task force qui a été montée de toutes pièces par la Commission européenne notamment, avec l'aide de différents pays européens, pour aller expliquer aux Grecs comment on fait un cadastre, comment on fait de la discussion, de la négociation interministérielle, comment un État peut véritablement fonctionner. Alors, il y a des problèmes de corruption en Espagne, etc. Mais je veux dire, c'est pas du tout à ce niveau-là.
Donc Gaël Brustier, est-ce qu'on peut se dire que Syriza n'a peut-être pas intérêt à trop miser sur des alternances politiques en Europe cette année qui verraient émerger des gouvernements qui lui seraient favorables? Et deuxième question qui concerne la France, alors il n'y a pas d'élection nationale, enfin à dimension nationale cette année en France, mais il y a par exemple alors tous les leaders de la gauche qui sont exprimés, notamment Jean-Luc Mélenchon, qui dit « J'espère qu'en France nous serons capables de créer un élan comparable ». Est-ce qu'on n'assiste pas à une forme d'excès d'identification à ce qui se passe en Grèce?
Alors pour le coup, l'Espagne et la Grèce ont quand même quelques traits communs, au-delà des différences économiques qui sont réelles. Parce qu'on a un cas paroxystique avec la Grèce qu'il ne faut pas sous-estimer. Et qui explique aussi l'effondrement très rapide du PASOK et la flambée de Syriza. Néanmoins, en Espagne, on a une chose qui est comparable, c'est qu'on arrive au bout d'un cycle. C'est-à-dire que ce sont les pays d'Europe du Sud qui ont été démocratisés dans les années 70, qui ont des constitutions qui datent de la fin des années 70, 78 pour l'Espagne, et que l'Espagne connaît aujourd'hui une véritable crise de légitimité, légitimité même de sa monarchie, contestation liée à des problèmes économiques et sociaux majeurs, quand même l'héritage d'un mouvement citoyen qui a été celui des Indignados, qui a été un mouvement majeur dans la vie sociale espagnole, avec occupation de centaines de villes par des jeunes assez conscientisés, un taux de chômage des jeunes absolument épouvantable.
Donc l'Espagne est mûre pour devenir un éventuel allié du gouvernement grec à la fin de l'année.
Mûre, on ne sait pas parce que les élections ne sont pas faites. Néanmoins, il y a une possibilité en Espagne d'un basculement politique à la fin de l'année. C'est pas fait, c'est pas dit. Les sondages donnent en gros à la louche 25% pour les grandes tendances, c'est 25% pour Podemos, 25% pour le PSOE, 20% pour le Parti Populaire. Après, ça change toutes les semaines, évidemment, mais c'est en gros les tendances qui se dégagent. Et avec un mouvement, effectivement, d'Iglesias qui tend à convaincre un nombre croissant de gens. Maintenant, ça rejoint une autre question, c'est celle de la France et celle du calque qu'on pourrait opérer. Il faut bien constater que des leaders comme Tsipras ou Iglesias ne fonctionnent pas exclusivement sur l'axe gauche-droite. C'est
la preuve, vu la coalition gouvernementale, oui, avec des souverainistes de
mais
droite.
Hein. Pourquoi? Parce qu'ils sont
qui
formés.
Nous surprend quand même énormément.
Oui, non, mais parce qu'ils sont formés. Il y a un papier de Fabien Esquelona sur l'héritage de l'eurocommunisme dans l'Europe du Sud. Mais ce sont des gens qui ont certes 35-40 ans, mais qui sont formés dans des partis de la gauche radicale qui sont très sensibles à ces thématiques de l'eurocommunisme, à ces thématiques du post-marxisme, c'est-à-dire de créer une hégémonie qui rassemble de larges secteurs de la société pour ensuite transformer la société. C'est pas exactement le mode de fonctionnement du Front de Gauche. Le Front de Gauche est encore un héritier, comme la social-démocratie, de la gauche du XXe siècle, c'est-à-dire de vieux débats où on vous dit classe contre classe, front unique, etc., où on a encore ça. Donc, il faut créer un pôle de radicalité, rassembler les radicaux, machin truc, pour influencer les socialistes, les sociodémocrates et faire en sorte qu'ils soient plus à gauche et tirer plus à gauche une politique qui va certes dans le mauvais sens, mais essayer... Bon, c'est pas du tout la logique de la gauche radicale du Sud, qui n'a absolument plus aucun espoir en la social-démocratie et qui a tourné la page d'autant plus facilement qu'elle s'inspire des thèses notamment d'Ernesto Laclau, qui disent il faut viser 50% de la population, il faut viser en mettant des signifiants qui soient rassembleurs, c'est-à-dire qu'on joue le peuple contre la caste, on joue la démocratie contre la dictature, et on rassemble un très large front social. Donc il y a un vrai débat stratégique qui a lieu en Europe du Sud, qui n'a pas lieu en France. Nos amis français de la gauche radicale sont, comme à leur habitude, toujours prompts à donner des leçons aux gens qui réussissent ou à voler à leur secours. J'ai vu en Amérique latine et je le voyais l'autre soir à la télé. C'est toujours très sympa. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas dans le même schéma stratégique.
Donc pour conclure, peut-être provisoirement évidemment, sur les effets que pourrait avoir dans d'autres pays, dans d'autres scrutins, la victoire de Syriza en Grèce avant-hier, Yves Berton-Sini, on peut dire donc que c'est en Espagne que, disons, la configuration est la plus proche de la Grèce et que une alternance du type Syriza pourrait avoir lieu avec Podemos, sauf que ces élections-là, elles ont lieu à la fin de l'année. Et qu'on pourra déjà établir une forme de bilan voilà. du gouvernement, du nouveau gouvernement grec. Et donc, ça peut aussi être un handicap, peut-être, pour le mouvement Podemos en Espagne, si Syriza n'obtient pas tout à fait ce qu'il entend obtenir.
Voilà, ça illustre l'interdépendance électorale qu'on signalait au tout début de notre conversation. D'ailleurs, j'ai noté que dès le dimanche soir, Iglesias disait, bon, ok, d'accord, bravo pour Syriza, mais attention, Syriza et nous, c'est pas la même chose. Syriza et Podemos, c'est pas pareil. Donc, il est tout à fait conscient de cela. Si vous voulez, le pays où ça devrait être la même chose, c'est le Portugal. Et ça montre bien que, d'ailleurs, il faut un précipité chimique qui est très particulier, parce qu'au Portugal, eux, ils ont connu une austérité drastique un peu comparable à celle de la Grèce. C'est pas tout à fait la même chose au Portugal, simplement en Espagne, pardon, mais simplement dans l'histoire récente du Portugal, et y compris du point de vue partisan, il n'y a pas eu l'émergence d'un mouvement citoyen qui a ringardisé le vieux parti socialiste portugais, qui, même s'il a bien des déboires, y compris du côté de la corruption, reste tout de même, quand on regarde les élections récentes et les sondages, extrêmement haut en termes d'opinion publique.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Sur qui Syriza peut compter en Europe? Discussion avec Clémentine Forissier, Yves Bertoncini et Gaël Brustier. Syriza donc qui arrive au pouvoir en Grèce. Forcément, il y a des mécontents également. On pense à l'Allemagne, on pense aux marchés financiers. Les marchés financiers qui n'allaient pas manquer de réagir défavorablement à l'arrivée de la gauche radicale au pouvoir. Eh bien non, manifestement, ça a été plutôt une réaction modérée, disons, en tout cas pas du tout intempestive. La dette grecque ne serait-elle plus l'affaire des marchés financiers? Eh bien oui, c'est ce que nous explique Philippe Tibi, le président de l'Association des marchés financiers.
Ce qui est certain, c'est que la dette grecque, en tant que telle, n'inquiète pas les marchés financiers. Si vous voulez, le problème économique de la Grèce, le problème financier de la Grèce, c'est aujourd'hui un problème résiduel. Plus de 80% de la dette grecque est aujourd'hui détenue par des institutions publiques, hein, l'Union européenne, la Banque centrale européenne, le FMI, le solde est en grande partie dans des mains grecques. Donc, si vous voulez, il n'y a aucun investisseur ou très peu d'investisseurs qui sont aujourd'hui engagés sur la Grèce. Deuxièmement, la panique que nous avons connue en 2011-2012 sur la Grèce était liée au fait que les banques étaient très engagées sur la dette périphérique, que des risques de défaut posaient un risque systémique à la zone euro. Aujourd'hui, ça n'est absolument plus le cas. Donc il est assez logique finalement que les bourses n'aient pas réagi dans un sens ou dans l'autre.
Voilà Philippe Tibi qui répondait à Mélanie Chalandon. Clémentine Forissier, les marchés financiers réagissent de cette manière. L'Allemagne, tout en émettant un certain nombre de réserves par rapport à ce que pourrait être la politique du gouvernement grec, n'est plus du tout dans un discours catastrophiste. Alors il y a forcément une partie de diplomatie là-dedans, mais en tout cas, le séisme annoncé n'aura sans doute pas lieu. Syriza reste quand même, et le gouvernement qu'il dirige désormais, eurocompatible.
Mais Syriza est eurocompatible depuis que Syriza a dit qu'il n'était pas question de sortir de l'Union européenne, qu'il n'était pas question de sortir de la zone euro, et qui ouvre la porte au fait qu'il n'y aura pas forcément obligatoirement une annulation de la dette, mais peut-être qu'on peut trouver une marge de manœuvre qui serait un rééchelonnement, etc. En fait, la tribune de Tsipras dans Le Monde il y a quelques jours est intéressante, parce que d'un côté, il ménage son opinion publique en martelant ce qu'il compte faire, donc ce que vous avez évoqué sur les personnes les plus pauvres, le SMIC, etc. Et de l'autre, il ménage les Européens en leur expliquant que, attention, il n'était pas question non plus de ne pas réformer l'État, de ne pas se fixer d'objectifs en termes de réduction de déficit, etc. Donc il y a quand même un double discours qui fait que là, on a affaire, à mon avis, à un parti qui va gouverner et donc qui sait qu'il va devoir discuter avec les Européens et que là, ce sera un échange sérieux et drastique. Donc,
au-delà de son eurocompatibilité, on pourrait parler d'une possible germano-compatibilité où là, c'est aller un peu trop loin.
Je pense quand même qu'en Allemagne, il y a une inquiétude dans la population. Il y avait des sondages avant l'élection qui étaient intéressants, qui disaient si les Grecs ne respectent pas leurs engagements, il faut qu'ils sortent de la zone euro. Et il y a 60% des Allemands qui disent ça. Il n'y a pas 60% des Français qui disent ça du tout. Donc je pense que dans la population allemande, et Mme Merkel est toujours l'écho de sa population, il y a une petite inquiétude pour ça. Donc la marge de manœuvre n'est pas non plus énorme et on les attend un peu au tournant, les Grecs. Cela dit, juste pour terminer, je pense que Syriza arrive à un moment où le discours avec l'Allemagne et avec d'autres est possible parce qu'il y a quand même des réformes qui ont été faites.
Sur quoi Syriza peut compter s'agissant de l'Allemagne, Yves Bertoncini?
Mais au-delà de l'Allemagne, il peut compter sur le soutien des partenaires traditionnels de la Grèce, les autres capitales, qui peuvent considérer qu'après tout, le fait d'en finir avec un vieux système politique totalement vermoulu, bloqué, avec toujours les deux mêmes partis au pouvoir, le fait de venir... de voir désigner tout à fait démocratiquement, légitimement, un nouveau Premier ministre qui incarne donc quelque chose d'autre, une alternative, est favorable. Si M. Tsipras met, comme il l'a dit, l'accent sur la lutte contre l'évasion fiscale, la fraude fiscale, la création d'un cadastre, le renforcement de l'État, la lutte contre la corruption, contre le clientélisme, si, d'une certaine manière, il essaye de, non pas créer un État en Grèce, mais en tout cas de faire en sorte que l'État grec fonctionne enfin, il aura tout le soutien de Berlin, de Paris et des capitales européennes. Donc, il va y avoir un enjeu de curseur, là. Il faut qu'il fasse cela. D'ailleurs, il l'a annoncé. C'est pas qu'il faut qu'il le fasse. Il a annoncé qu'il le ferait. Je dirais, il faut l'aider à réussir cela. Et puis, évidemment, il y aura d'autres éléments dans son programme qui sont des éléments un peu plus sociaux. Il y aura un point dur, c'est la renégociation de la dette. Parce qu'effectivement, il y a quand même une continuité de l'État, si on parle de renforcer le rôle de l'État. C'est de la vieille dette, c'est la vieille dette, mais à un moment donné, il y aura des négociations. Je crois qu'il y aura une flexibilité, notamment sur les délais de remboursement, éventuellement sur les taux d'intérêt. Sans doute que la ligne rouge, c'est de dire que, comme les créanciers privés l'ont fait il y a 2 ans et demi, on tire un trait sur la moitié de la dette publique. Parce que la moitié de la dette publique, de 140 milliards, elle est détenue par des contribuables des autres pays. Et ça, c'est un peu plus délicat.
Gaël Brossi, on pourrait dire qu'il y a une partie du discours de Syriza et d'Alexis Tsipras qui est assez consensuel pour les Européens, en tout cas suffisamment pour pouvoir compter sur un certain nombre d'alliés, justement, par exemple lors du prochain Conseil européen qui aura lieu dans quelques jours.
Oui, il y a d'autres capitales qui peuvent être intéressées par une évolution de la politique européenne, notamment Paris ou Rome.
Michel Sapin, par exemple, la ministre des Finances, qui dit « Syriza renforce le camp de ceux qui, comme nous ou le gouvernement italien, veulent une évolution des politiques européennes ». Et puis il y a même des propos, alors qu'ils ne sont pas identifiés, puisqu'ils viennent de l'Élysée, mais qui sont repris par Libération aujourd'hui. À l'Élysée, on dirait « tout ce que dit Tsipras va dans notre sens ».
Oui, alors après, bon, il y a effectivement un travail de communication politique qui est tout à fait compréhensible de la part à la fois du gouvernement, de la présidence de la République et du Parti Socialiste français, qui il y a un an, le Parti Socialiste recevait Venizelos en lui déroulant le tapis rouge. Mais pour le coup, il change la donne.
C'était l'ancien ministre des Finances.
L'ancien ministre des Finances, leader du PASOK. Il change la donne un peu en Europe et il n'est pas, il n'y a pas que la gauche radicale qui peut se mobiliser en soutien. C'est-à-dire qu'il y a d'autres capitales. Renzi, qui est le leader du Parti démocrate, qui n'a rien d'un anti-européen, mais simplement avait déjà posé un certain nombre de questions à Angela Merkel sur la politique économique en Europe et en cherchant à desserrer l'austérité. Il y a eu un rassemblement en juin à l'Élysée où François Hollande a essayé d'entraîner un certain nombre de sociaux-démocrates européens dans un rapport de force au niveau européen pour ouvrir une discussion sur la politique économique menée en Europe. Ce ne sont pas des révolutionnaires, ce ne sont pas des gens de la gauche radicale, et Michel Sapin surtout pas, mais ils peuvent avoir à un moment donné aussi la conscience que la politique économique telle qu'elle est menée en Europe, telle qu'elle est soutenue aussi par un certain nombre de populations européennes, notamment en Europe du Nord et en Allemagne notamment, risque de fracturer l'Europe entre le Nord et le Sud.
Alors, est-ce qu'on pourrait dire, justement, pour rester sur ce thème-là, qu'il y a peut-être eu 3 temps dans l'inflexion de la politique européenne sur le plan économique, disons, et budgétaire, c'est-à-dire une première couche qui aurait été amenée par François Hollande au moment de son élection en 2012, en promettant, alors bon, il promettait de renégocier le pacte budgétaire européen, mais il dit avoir obtenu un pacte de croissance qui permettait en tout cas de valider ce pacte budgétaire. Deuxième couche, ça serait l'arrivée de Matteo Renzi en Italie, qui allait peut-être un petit peu plus loin dans la remise en cause des politiques, dans la volonté d'avoir une vraie politique de relance. Et puis la troisième couche, ça serait Alexis Tsipras, Clémentine Fourissier. C'est-à-dire, en gros, est-ce que Syriza bénéficie d'un travail de fond qu'auraient pratiqué certains de ses partenaires désormais?
Alors, oui et non. En fait, je pense que fondamentalement, le contexte a changé. Qu'on n'est plus au pic de la crise, qu'on n'est plus en train de se dire qu'il faut sauver absolument les banques, parce que si on ne sauve pas les banques, c'est la zone euro qui va exploser et que personne, enfin, que ça sera une véritable catastrophe. On n'est plus en 2011, on n'est plus en 2010. Le contexte a changé. Donc, les politiques d'austérité ne sont pas la revendication absolue première de tous les dirigeants européens. Après, effectivement, effectivement, il y a eu, à la suite finalement de cette période d'austérité très forte et de crise très grave, l'élection de François Hollande, qui porte ce discours malgré tout et qui le rabâche, même si c'est un peu que des mots aujourd'hui.
Parce qu'il faut se rappeler quand même des réactions à l'époque, hein, quand François Hollande arrive à l'Élysée, les réactions à l'échelle européenne, c'est dire voilà, c'est peut-être, ça y est, c'est une chance pour proposer une autre façon de construire l'Europe.
Les réactions ne sont pas que celles-là. Il y a aussi beaucoup de... On se moque un peu de la France quand même. Hein. Je vais réorienter l'Europe. Il n'y a que les Français qui l'ont entendu. À Bruxelles, personne n'a entendu exactement le même discours. Donc, il faut toujours relativiser un peu. Mais effectivement, l'élection de François Hollande, l'élection de Matteo Renzi, l'arrivée de Jean-Claude Juncker à la Commission européenne, qui malgré tout, depuis qu'il est là... Alors, pourtant, c'est pas... je veux dire, c'est pas Alexis Tsipras. Hein, entend ce discours de moins d'austérité, veut être plus à l'écoute de ce qui se passe dans les pays et émet la possibilité de faire en sorte qu'il y ait plus de flexibilité en Europe dans la façon dont on gère les budgets, parle d'un plan d'investissement, etc. Tout ça, mis bout à bout, fait que il y a une petite musique quand même qui n'est plus la même aujourd'hui que ce qu'elle pouvait être il y a encore 2 ans, même au moment où François Hollande est arrivé.
Yves Bertoncini égale Brustier. Yves Bertoncini.
Oui, enfin, il y a, comme le dit Clémentine, les circonstances qui ont changé. D'ailleurs, y compris en Grèce. Hein.
Mais qui ont changé ces circonstances, indépendamment d'un certain volontarisme politique qui sera incarné et par Hollande, et par Renzi, et par Juncker.
Non, mais regardons, la Grèce et ensuite l'Europe. Là, en Grèce, il y a eu 240 milliards d'euros d'aides qui ont été utilisées. Il n'en reste plus que 10 à verser. Donc, de toute façon, l'Europe FMI en Grèce, c'est fini. C'était fini. C'était quasiment fini. C'est prévu pour que ça soit fini dans les prochains mois. Quel que soit le vainqueur, hein, d'ailleurs, ça aurait été fini. Il y a quand même eu des ajustements en Grèce. Alors, ils ont été douloureux. Si on regarde seulement le chiffre de la dette, on a l'impression qu'il n'en servit à rien, puisque la dette était à 110%, elle est montée à 175%. Mais la Grèce a maintenant des perspectives de croissance qui sont redevenues positives. Il y a eu aussi un chômage qui est beaucoup trop haut, mais qui commence à baisser. Donc ça produit des effets qui vont permettre à Alexis Tsipras, j'allais dire, de desserrer cette étreinte insupportable, mais qui avait quand même produit des effets, comme d'ailleurs elle en a produit en Irlande et au Portugal, en faisant des dégâts sociaux, hein, naturellement. Il n'est pas question de les minorer. Alors après, en Europe, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu aussi l'effet de cette rigueur, parce que ce n'est pas quand même la même chose. Encore une fois, ce qui se passe en Grèce ne s'est, Dieu merci, pas passé dans la plupart des autres pays d'Europe. Ça n'était pas nécessaire. Les autres pays d'Europe n'étaient pas en faillite virtuelle comme la Grèce. Bon. Mais il y a eu une rigueur. Bon. Et un équilibre rigueur-croissance qui a été mal calibré. Trop de rigueur, pas assez de croissance. Et donc, même maintenant, vous avez parlé de tournant, tout ce que la Banque Centrale Européenne a été amenée à faire, y compris récemment, c'est pour indiquer qu'il fallait effectivement maintenant beaucoup plus mettre l'accent sur la croissance. Alors, on peut dire que peut-être des personnalités politiques comme François Hollande et Matteo Renzi ont eu le mérite, d'enfourcher ce cheval de bataille-là. Mais ce sont aussi beaucoup les circonstances qui les ont aidés.
Le terrain était bien préparé pour Alexis Tsipras, Galbroustier?
Oui, le terrain bien préparé, on va le voir dans les prochaines négociations. Il faut quand même rappeler qu'en mai 2012, François Hollande ne renégocie pas, contrairement à ce qu'il dit, ce qu'on appelait le traité Mercosy. Et que, donc, ça fait l'objet d'une communication assez floue. Et puis, tout d'un coup, Jean-Marc Ayrault arrive et on trouve dans une dépêche AFP qui dit benoîtement « Non, on n'a pas renégocié ». Donc, il y avait un additif. Ensuite, les mois ont passé, de très longs mois, sans croissance, avec une augmentation du chômage, avec un contexte sociétal français qui était tendu pour la gauche. Il y a eu l'arrivée de Renzi et le fait que Renzi a compris avec une poussée du populisme comme jamais on en a connu en Italie, enfin si tant est que le berlusconisme n'en ait pas été un, mais il y avait une nécessité pour Renzi de gouverner différemment et d'apostropher Angela Merkel. Maintenant, ça n'avait pas l'air de suffire. Il s'est passé en juin la rencontre, une tentative nouvelle de desserrer les choses au niveau européen. Et il se peut que l'élection de Tsipras donne un certain nombre d'arguments à des sociaux-démocrates de centre-gauche bontains, qui n'ont rien de radicaux, comme on disait, d'essayer de desserrer et d'orienter sur la croissance maintenant la politique européenne. Et non plus simplement sur l'obsession de la réduction des déficits et de la dette.
Est-ce que c'est justement ça un défi pour Alexis Tsipras, c'est-à-dire d'essayer de faire de la question de la dette grecque, qui est vraiment la question cruciale pour ce pays, une question qui ne soit pas exclusivement grecque, mais qui puisse être repensée à l'échelle de l'Union européenne. Gaël Brossier.
On est dans un cas de l'Union européenne, c'est d'abord le produit d'interdépendance. Donc il faut tenir les deux bouts de la chaîne. Son Le cœur de son programme, c'est la reconquête des instruments de souveraineté. Reconquête des instruments de souveraineté, ça passe par effectivement la diminution de la dette nominale, ça passe par ce qu'il voulait il y a un an et ce qu'il va devoir négocier, ce qu'il pourra l'avoir, le moratoire sur les intérêts de la dette, et puis toutes les questions liées à la recapitalisation des banques qui ne pèsent pas sur l'État grec et qui vont de pair en fait avec la reconstruction effectivement d'un appareil étatique en Grèce et l'émancipation vis-à-vis du bipartisme et de la corruption qu'il engendrait.
Parce que je voulais dire dans ma question, c'est est-ce que le gouvernement grec doit y aller seul, ou en tout cas donner l'impression qu'il y va seul,
ça, c'est ses objectifs.
Et qu'on ne se préoccupe que de cette question du point de vue de la Grèce.
C'est ses objectifs politiques nationaux, il doit les articuler. On est dans un cadre, l'Union européenne, c'est un système qui fonctionne c'est un système élitaire et consensuel. Donc il est obligé d'aller à la rencontre de ses homologues, quels qu'ils soient, de quelque couleur politique qu'ils soient, pour essayer de nouer des accords avec eux et de développer un consensus au niveau européen. C'est le problème de l'Union européenne jusqu'ici, c'est un problème de double souveraineté. Vous avez un problème de souveraineté populaire conflictuel au niveau national, et il y a une souveraineté qui est plutôt élitaire consensuelle au niveau européen. Le tout, c'est d'articuler les deux, et ça se fait parfois dans la schizophrénie complète sur le dos des électeurs, parfois ça se fait aussi dans le dialogue, ce qu'a essayé de faire Renzi et ce qu'a initié Renzi. C'est en ce sens que Tsipras ressemble un peu, en ce sens-là, pas sur la couleur politique, mais ressemble un peu à ce qu'a essayé de faire Renzi, c'est-à-dire d'essayer d'aller chercher des alliances au niveau européen pour infléchir et récupérer ce qu'il peut récupérer.
Il faudrait presque qu'il arrive à mutualiser finalement cette problématique.
Alors précisément, la dette grecque, c'est déjà un problème européen. Alors du point parce que la dette grecque aujourd'hui, elle est détenue, les 240 milliards d'euros d'aide, essentiellement par des acteurs publics, c'est-à-dire par des contribuables européens. Alors qu'avant, c'était les acteurs privés qui la détenaient en majorité et que les acteurs privés ont accepté en 2012 de renoncer à 107 milliards d'euros. C'est un petit problème financier, il faut le dire tout de suite. La Grèce, c'est 2% du PIB de la zone euro, à peine plus. C'est un petit problème financier. Les acteurs financiers s'en sont remis d'avoir renoncé à ces 107 milliards d'euros. Les acteurs publics, l'État en France, ils s'en remettraient. Mais enfin, c'est quand même 40 milliards, un peu plus pour les Français, plus de 50 milliards en Allemagne. Ce n'est pas du tout un petit problème politique. Parce que pour accepter un rééchelonnement, tout ça... Peut se vendre politiquement, passez-moi l'expression, mais des abandons de créances comme l'ont fait les privés, c'est différent. Et j'ajoute que même dans les pays qui sont dans une situation comparable, c'est-à-dire l'Irlande, le Portugal, Chypre, c'est pas forcément des États qui ont fait tous les efforts récents qui soutiendront un abandon de créances de la Grèce.
Ou alors, pourraient se dire, nous on a fait les efforts,
ou alors
on
ils demanderont qu'on abandonne des créances pour eux aussi, ce qui rendra encore plus facilement, plus difficile la mansuétude vis-à-vis de la Grèce.
Clémentine Forissier.
Oui, moi je suis d'accord, je pense qu'on aura beaucoup de mal à demander aux gens qui ont fait des efforts d'accepter que la Grèce renonce qu'on renonce à une partie de la dette grecque si on ne trouve pas des solutions pour eux-mêmes. Cela dit, pour revenir à la question des alliances, je pense que on voit bien déjà la réunion hier à Bruxelles des ministres des finances. Il y aura un consensus pour rééchelonner la dette grecque. Enfin, je veux dire, on va trouver une solution. Tout le monde est conscient que politiquement, Alexis Tsipras ne peut pas rentrer chez lui avec un non. Et il a été élu, il a été bien élu, même s'il n'a pas la majorité absolue. Donc, on va devoir lui donner quelque chose et lui donner gain de cause.
La Banque Centrale Européenne le dit, on est d'accord pour discuter sur un rééchelonnement de la dette.
Oui, de toute façon, la Banque Centrale Européenne est dans une situation spécifique, c'est qu'elle ne peut pas du tout annuler quelques dettes que ce soit, parce que ça voudrait dire qu'elle finance directement les États, alors ça, c'est complètement impossible. Mais pour la dette qui est détenue par les États, là, il y aura une vraie discussion, et tout le monde, même les pays qui sont le plus hostiles et le plus inquiets de savoir si Syriza va faire vraiment les réformes de l'État, etc., et ne va pas tout d'un coup se remettre à réembaucher des fonctionnaires, etc., les pays du nord de l'Europe, eux-mêmes, ont dit annulation de la dette, jamais, rééchelonnement, discuter des délais, etc., etc. Là, on est prêt et on est ouvert.
Donc il y aurait presque un intérêt collectif européen. Est-ce que Syriza arrive à mettre en œuvre son programme, Gaël Brustier ?
Enfin, ça va être une lutte quand même, parce qu'il y a des antagonismes. D'abord, il y a des antagonismes géographiques, on l'a dit, entre le nord et le sud de l'Europe. Il y a des antagonismes au sein même de la société grecque. Donc il ne faut pas penser que tout le monde va arriver à un consensus comme ça. Ça va être une négociation très dure, je pense. Maintenant, c'est vrai qu'il peut compter effectivement sur un certain nombre de ses collègues d'autres couleurs politiques, et puis il peut compter aussi sur le ras-le-bol d'un certain nombre d'opinions publiques en Europe qui peuvent l'aider.
Et bien, merci beaucoup à tous les trois pour cette discussion. Yves Bertoncini, Gaël Brustier et Clémentine Forissier. Discussion à laquelle vous pouvez participer, comme chaque soir, sur notre site internet franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Discussion qui se prolonge également demain matin chez Marc Voinchet, puisque le sujet que traitera Marc, ce sera l'Europe face à Syriza, espoir et désillusion. Voilà, au programme du Grain demain, une émission consacrée à la citoyenneté et au discours sur la citoyenneté. Nous recevrons Esther Benbassa et Jean-Pierre Le Goff.